La nuit spéciale Jack London se poursuit sur France Culture en compagnie de Noël Mauberet, président de l'association des amis de Jack London et traducteur de London, et de Michel Viotte, réalisateur, entre autres, de Jack London, une aventure américaine. Depuis le début de la nuit, nous avons entendu Michel Lebris à propos de l'appel sauvage, des extraits de Jerry dans l'île lus par Laure Dutilleul, et Francis Lacassin nous racontait Jack London dans La ruée vers l'or. Au programme de la deuxième partie de cette nuit, la vie et l'œuvre de Jack London, et ensuite deux lectures, celle de la nouvelle « Tuer un homme » dans une traduction de Louis Postif, Louis Postif dont nous avons longuement parlé au cours de la première partie de la nuit, et pour finir, la lecture d'un extrait d'un des derniers romans de London, John Barleycorn ou « Le cabaret de la dernière chance ». London était l'écrivain le plus célèbre de son temps. Comment est perçue son œuvre aujourd'hui? Quelle place occupe-t-elle aux États-Unis et en France, Noël Mauberet?
Alors Jack London, on peut dire, a été à l'origine de la modernité des lettres américaines. Avec Mark Twain, c'est les deux qui ont vraiment fait parler le peuple avec sa propre langue dans la littérature américaine. Il a eu des descendants littéraires. Je pense que sans London, il n'y aurait pas eu Hemingway. Hemingway, des premiers récits sur les Indiens, par exemple. Faulkner s'est sans doute inspiré du personnage de London, d'un idiot, hein, dans une nouvelle de London, pour composer le personnage qui est dans Le bruit et la fureur. On peut penser aussi, bien sûr, à John Steinbeck, qui campe les déshérités, comme London le faisait, sur les routes des États-Unis. Après, il y a comme ça une espèce de continuité. Chaplin, quand il met en scène La ruée vers l'or, retrouve des scènes qu'on a dans Jack London. L'hiver dans la cabane qui rend fou les chercheurs d'or, voilà un exemple. Mais par la suite, quand Kerouac fait ses traversées des États-Unis, il appelle son ouvrage On the Road, et Jack London avait fait la même chose, il avait lui appelé son ouvrage The Road. Donc évidemment Kerouac rend hommage à Jack London, mais on peut penser aussi aux écrivains du Montana, comme par exemple Norman MacLean, hein, La rivière du sixième jour, mise en image par Redford, au milieu coule une rivière. Voilà, ça c'est vraiment un héritage de London. On pourrait parler aussi de Into the Wild, le film qui a marqué en Amérique le public, Into the Wild de Sean Penn. Hein, pareil, la même référence aussi que pour Kerouac, puisque c'est évidemment The Call of the Wild pour London et Into the Wild pour Sean Penn. Voilà. Alors il y a comme ça des exemples, des échos de London dans la littérature américaine actuelle. John Irving a la même passion pour la lutte que celle que Jack London avait pour la boxe. Et quand on lit, par exemple, Dernière nuit à Twisted River, il y a des passages qui font beaucoup penser à London. Alors, évidemment, dernièrement aussi, un film qui a marqué les esprits, c'est le roman de Cormac McCarthy, La route. Ben, un titre de London qui est repris, dans lequel on voit un père et son fils dans une Amérique post-apocalyptique. Jack London a écrit La peste écarlate, dans laquelle on voit un grand-père et ses deux petits-fils dans une Californie post-apocalyptique également. Donc vous voyez que les échos sont nombreux finalement dans la création américaine actuelle.
Et comment est perçue son œuvre aujourd'hui en France et aux États-Unis?
Alors son œuvre était perçu comme l'œuvre d'un écrivain pour la jeunesse encore dans les années 60. Mais maintenant, on s'intéresse, je trouve, de plus en plus au côté politique de Jack London. Alors, ce côté
depuis les années 70.
Alors, ce côté, il est un peu occulté aux États-Unis. Il est un peu occulté, mais Jack London est en train d'être redécouvert. En France, actuellement, je trouve qu'il y a un énorme regain d'intérêt pour Jack London. Jack London, qui puisait dans les lettres françaises, il cite souvent la France dans ses lettres et même parfois dans ses œuvres, qui avait comme ça une espèce de lien avec la France, un lien indirect mais réel.
Michel Viotte, vous avez donc réalisé un documentaire sur London. Et puis vous êtes l'auteur, en collaboration avec Noël Mauberet, d'un magnifique livre-album « Les vies de Jack London », très riche en iconographie. Dans votre film et dans votre livre aussi, on découvre un Jack London photographe qui sans doute avait compris, dès le début du XXe siècle, l'importance que prendrait l'image.
Ce qui caractérise Jack London, c'est qu'il comprend immédiatement tous les outils de la modernité et qui se les approprie. Non seulement il se les approprie, mais c'est au-delà d'un simple gadget, si vous voulez. C'est pas on vient d'inventer le drone et hop, j'essaye de le faire voler. C'est qu'il comprend quelle est la narration en jeu derrière et comment l'utiliser pour aller plus loin dans une nouvelle exploration artistique, si vous voulez. C'est multiple, mais bien évidemment, il y a la photographie. Là, on mesure à quelle vitesse il comprend ça, puisque la pellicule souple apparaît en 1885, inventée par George Eastman, que les premiers appareils, je crois qu'ils sortent des usines Kodak, c'est vers 1888, et qu'il acquiert, ses appareils, il en acquiert plusieurs au début du siècle. Et immédiatement, il essaye tous les formats. Il a un Kodak 3A, qui est, vous savez, des appareils à soufflet, comme ça. Quand on replie le soufflet, on peut glisser l'appareil dans sa poche, ce qui permet évidemment d'être extrêmement mobile. Et de donc de faire, on pense bien sûr à ce qu'il a fait après comme correspondant de guerre, voilà, très efficace sur le terrain.
Les photos pour le peuple de l'abîme aussi, qui accompagnaient magnifiques photos faites dans l'East End.
Et puis, des formats panoramiques, j'y tiens, parce que c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Et il fallait être extrêmement précurseur pour aborder ces formats-là à l'époque. En revenant, il en prend à Londres durant le peuple de l'abîme. Mais après cette expérience, il séjourne un peu en Europe pour se détendre. Il va en Italie, en Suisse et en France. Et il y a une très 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 belle photo sur les quais de Seine, notamment. Et où il effectue des clichés comme ça des très grandes capitales européennes, des grandes villes européennes en format panoramique. Alors, quand le peuple de l'abîme, c'est l'expression immédiate de, si vous voulez, il n'y a pas de meilleur exemple. Comment on comprend vite ce qui est en jeu avec ce nouvel outil et comment on invente une nouvelle forme pour son livre. C'est-à-dire que ce qui va lui permettre, il va penser immédiatement le livre. Je crois que c'est le seul exemple à ce point où les photographies sont complètement imbriquées dans le texte. Les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Et il a pensé immédiatement un livre illustré où les mots et les photographies joignent leurs forces, si vous voulez, pour exprimer la puissance du message qu'il entendait communiquer à ses lecteurs. Voilà. Donc c'est Le peuple de l'abîme, c'est d'ailleurs un de ses ouvrages favoris, où il disait qu'il avait mis énormément de lui-même. Mais ça va lui permettre également, la photographie, de développer tout un travail en tant que journaliste et de correspondant de guerre. Il faut imaginer que ça, il y a un autre outil de la modernité dont il bénéficie, c'est la linotype, qui vient d'être inventée dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui révolutionne la presse, qui fait que tout d'un coup on va pouvoir multiplier les tirages et insérer des photographies. Ce qui permet à Jack London de prendre des photographies pour nourrir ses articles, parce qu'il collabore beaucoup avec la presse écrite. Et également, comme il a le souci d'inventer sa propre légende, en tout cas de soigner sa publicité, d'être largement publicisé. Et ce sera le premier auteur à ce point dont on connaîtra à la fois le nom, mais aussi le visage. C'est-à-dire que, en gros, Jack London est dit vulgairement un des premiers people.
C'était l'homme le plus photographié des États-Unis dans les années, juste après les années 1900.
Et le nom de London et son image deviennent même une marque, même si lui, bien évidemment, il décline pas ça sur des barils de lessive, comme certains pourraient le faire, et certains l'ont fait par la suite, mais au contraire, il veille jalousement à la gestion de cette marque, si j'ose dire, mais j'ai réussi à retrouver un Cosmopolitan de novembre 1913, c'est la seule et unique que j'ai jamais trouvée, une publicité pour des vêtements incarnée par Jack London. mais qui n'est paru qu'une fois. Et à mon avis, ça s'est paru par-devers lui, et qu'il a dû la faire interdire ensuite. Mais ça en dit long, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains à l'époque dont on pouvait utiliser l'image pour espérer vendre un produit industriel. Et puis bon, bah, au-delà de la linotype, de la photographie, il y a évidemment le cinéma. Et l'intelligence de comprendre d'abord ce qui est en jeu avec le cinéma. C'est-à-dire que le cinéma à l'époque, c'est dans ce qu'on appelait des Nickelodeon, c'est-à-dire des salles faites pour diffuser des formats de courts-métrages et extrêmement populaires. Et de comprendre que tout d'un coup, ce médium va bouleverser ses modèles narratifs et aboutir à des formats de longs-métrages, donc qui vont obliger à réformer le système des salles, tout le parc des salles, les formats donc de diffusion, mais aussi changer, élargir leur audience en s'adressant aux classes moyennes, beaucoup plus demandeuses, on va dire, exigeantes, on va dire, sur le plan de la qualité artistique, au-delà du divertissement. Il va comprendre ça et initier une série de films, la collection des films Jack London, adaptée de ses œuvres. Alors, il va, là encore, exporter la marque Jack London, d'une certaine manière, pour élargir les sources de ses revenus, puisque toutes ses aventures lui coûtaient des fortunes, et que c'était devenu un véritable gouffre financier, une fuite en avant. Mais quand il aborde le cinéma en 1913, qu'il initie la production d'une collection de longs métrages, il n'y a aucun long métrage qui n'est sorti aux États-Unis à l'époque. C'est-à-dire que Cabiria, qui a été produit en Europe en 1913, ne sortira aux États-Unis qu'en 1914. Que le premier long-métrage américain considéré comme tel, qui est conservé à la librairie du Congrès, c'est The Squawman de Cecil B. DeMille, et qu'il est un an postérieur. Donc, on mesure l'extraordinaire pré-instinct de Jack London de comprendre comment ce médium va évoluer. Et en plus, il le comprend tellement bien qu'il perçoit que les modèles narratifs sont différents de la littérature. Il ne veut pas écrire lui-même les scénarios, même s'il collaborera un scénario à la fin, qui ne se tournera pas. Mais dans l'ensemble, il délègue, il choisit un alter ego pour le cinéma qui s'appelait Robert Bosworth, qu'on a appelé des années plus tard, lorsqu'il est devenu un des fondateurs d'Universal, le doyen d'Hollywood. Et c'était un personnage qui le fascinait, qui le séduisait, parce que c'était un ancien aventurier qui avait été marin, il avait chassé sur une baleinière, etc. C'était un homme vraiment au physique imposant et qui avait un réel charisme. Donc Jack avait trouvé un petit peu son alter ego, mais en même temps, il lui a délégué, fait une confiance absolue et laissé les rênes de cette production qu'il regardait de loin. Ces séries ont connu l'échec, mais parce qu'elles étaient tellement en avance sur leur temps, finalement. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est venue bouleverser qui est venue bouleverser la distribution des films et qui a fait que les marchés européens s'étaient fermés. Mais l'intelligence de Jack London de comprendre, quand il s'adressait à Howard Bosworth ou à Frank Garbutt, leur financier, que ils avaient toute latitude pour adapter les œuvres. C'est un médium différent. Il leur disait, toutes les correspondances en témoignent.
Il trouvait d'ailleurs lui-même que les adaptations avaient été trop fidèles à ses romans.
Absolument. Parce que lui était prêt à accepter l'idée, et ce qui paraît fou quand on pense à un auteur, de dire, mais transformez les fins, faites des happy ends. Le public a envie de happy ends. Et c'était pas de la part de Jack London la démonstration du fait qu'il aurait déconsidéré l'œuvre cinéma par rapport à l'œuvre littéraire et qu'il estimait que voilà, on pouvait s'autoriser ces licences au cinéma par rapport à la littérature qui était plus noble. C'était pas du tout ça. C'était qu'il comprenait que le pouvoir éducatif et le pouvoir de communication du cinéma, il avait parfaitement compris que ce serait l'enjeu de demain. Il y a des correspondances qui existent et des textes d'interview dans des magazines de cinéma de Jack London à l'époque, où il explique par le menu comment, pour lui, ça a été un choc de découvrir ce nouveau médium dont il imagine que ce sera le médium de demain. et le plus grand, celui avec le plus grand pouvoir de communication au plus grand nombre, et avec une force pédagogique incroyable.
Et dès les premiers temps du cinéma, London a découvert très vite ce qui était déjà la dureté des pratiques commerciales. Il parlait du plus terrible combat en affaires de toute sa vie.
Oui, c'est le cauchemar absolu pour un auteur, c'est de se voir dépossédé de ses droits, qui, comme l'indique le droit français d'ailleurs, nous portons plutôt bien de ce côté-là, est incessible et inaliénable. À l'époque, ça a été le grand combat de Jack, parce que le milieu était sauvage. Il contracte en premier lieu avec une société qui s'appelle Balboa, qui fait une première version du Loup des Mers, qui va initier une première version du Loup des Mers. Ils vont tomber en désaccord, il y aura une malversation de Balboa. Il va contracter avec Howard Bosworth et leur donner l'exclusivité, mais les deux versions vont être produites en même temps du Loup des Mers, avec les deux sociétés concurrentes, même si une seule en a l'autorisation, et l'aval de Jack. Et donc, il va falloir que toute la société des auteurs américaines, la Ligue des auteurs, appuie Jack et porte son combat. Et pour lui, ça aura été un véritable cauchemar. Et il ne pourra pas empêcher la sortie de la version frauduleuse, on va dire, du Loup des Mers, produite par Balboa.
Noël Mauberet.
Oui, Jack London, et c'est pas le moindre de ses paradoxes à nouveau, c'est qu'il est à la fois un militant socialiste qui donne de son temps et beaucoup de son argent à la cause, et il se présente même deux fois aux élections en tant que socialiste, et à l'époque c'était des socialistes à la mode de Jaurès ou de Lénine. Et en même temps, quand on lit sa correspondance est pleine de chiffres. C'est un homme d'affaires. Quand un jour un journaliste lui dit « Mais pourquoi écrivez-vous, Monsieur London ?» il répond « Parce que vous me payez ». Et il a compris la loi du marché et il s'y est très bien adapté. Il a compris, un jour il a déclaré que désormais il avait décidé de vendre sa matière grise plutôt que ses muscles. Ses premières nouvelles lui sont payées 5 dollars et 5 ans après, on les lui paye 750 dollars l'une. Quant à ces articles de journaux dont tu parlais, Michel, eh bien, le grand mania de l'industrie, le grand capitaliste de l'époque, William Randolph Hearst, c'est le Citizen Kane de Orson Welles, payait royalement Jack London, tout simplement. Alors, il se moquait pas mal que ça soit un militant socialiste extrémiste. Ce qu'il avait vu, Hearst, c'est que la loi du marché était là. Et quand Jack London couvrait, par exemple, le championnat du monde de boxe de Reno entre Jeffries et Johnson, eh bien, les tirages de ces journaux étaient multipliés par deux, voire par trois. Et du coup, London, comme ça, est à la fois s'adapte au marché, au capitalisme, et en même temps le combat, en déclarant à Harvard et à Yale lors de ses tournées de conférences, en déclarant aux futurs manias de l'industrie américaine, qu'est-ce que nous voulons, nous ? Nous voulons tout ce que vous avez, messieurs les capitalistes, et un jour votre système s'effondrera, et à ce moment-là, voilà nos mains, elles sont fortes, et on prendra tout dans nos mains.
Mais c'est un mauvais homme d'affaires. Hein.
Oui,
c'est un mauvais homme d'affaires. Bon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se vend extrêmement bien, parce qu'il avait un charisme absolument fascinant. Tous les témoignages concordent, et que ce soit dans le domaine de la littérature, du cinéma ou du journalisme, tous les gens qui ont approché Jack London témoignent que lorsqu'il rentrait dans une pièce, de l'apparition de quelqu'un d'exceptionnel et d'un regard qui était fascinant. Et il y avait des yeux très clairs, gris, absolument perçants, et se dégageait de lui quelque chose de différent. Tout le monde est marqué par la rencontre avec London, vraiment tous les témoignages concordent. Mais au-delà de sa forte personnalité, qu'il arrivait bien, si vous voulez, il avait une extrême force pour vendre son nom, pour vendre ses idées, pour convaincre, pour faire rêver, apporter du rêve aux autres. Mais par contre, pour gérer, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que le problème, c'est que le rêve ne s'arrêtait jamais et il manquait d'une totale mesure. Et pratiquement tout ce qu'il a monté économiquement s'est cassé la figure. Alors que c'était un des écrivains les mieux payés. Sinon, le mieux payé.
Oui.
Et il y a une chose qui est fascinante, c'est que si le ranch a survécu, c'est grâce à la présence de sa demi-sœur, Elisa, qui était Lou Lille, un des historiens du ranch, raconte dans le film que elle était un peu sa conscience, mais effectivement, parce que en fait, toutes les initiatives et les idées de Jack qui étaient débordantes et qui fusaient en permanence, passaient par le tamis, si vous voulez, par le filtre pragmatique de sa demi-sœur et qui lui ramenait les pieds sur terre.
En fait, il avait aussi, à mon avis, un peu la même personnalité que Balzac de ce point de vue-là. C'est-à-dire que on s'endette à l'avance pour être en quelque sorte poussé et être obligé d'écrire. C'est Balzac faisait ça, bon, et London fait un peu ça. C'est-à-dire qu'il demande à son, éditeur une avance énorme et après il sait qu'il va être obligé d'écrire le livre. Si, mais à peine a-t-il fini de l'écrire qu'il a déjà demandé une nouvelle avance. Et comme ça, à l'infini.
Tout à l'heure, nous avons évoqué une possible généalogie de London. Peut-on dire de Jack London qu'il a été le premier romancier américain, c'est-à-dire le premier ou l'un des premiers d'une Amérique moderne, une Amérique qui aurait pris le large et largué les amarres qu'il a liées à l'Europe, Noël Mauberet?
Disons que c'est peut-être, il y a de ça, mais en même temps, c'est surtout une Californie qui est en train de s'affranchir des écrivains de l'Est. Mais c'est une Californie qui intègre pleinement à la fois les valeurs qui sont devenues les valeurs californiennes avec justement cette vision d'un ouest qui n'est plus l'ouest des cowboys et des indiens, mais qui est l'ouest des usines. Et en même temps, il garde un lien avec l'Europe, mais avec certains aspects de l'Europe. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure dans le précédent entretien d'un naturalisme poétique. Mais par exemple, quand Bellew, dans le roman Bellew, La fumée, quand Bellew décide d'écrire, Bellew, c'est le nom Bellew, mais français, prononcé à l'américaine, comme ils ne savent pas prononcer les U, ils disent Bellew. Et Bellew est un petit journaliste à San Francisco qui végète et qui un jour décide d'écrire. Et c'est ce qu'il va faire en partant pour le Grand Nord. Et comment décide-t-il d'écrire? Parce qu'un jour, il reçoit une lettre de Paris, d'un de ses amis. Et comment s'appelle cet ami? Il s'appelle Bellamy. Bel ami, c'est bien entendu un mot passant, et voilà. Et quand il a écrit donc ce livre fondamental dont tu parlais, Michel, tout à l'heure, le peuple de l'abîme, que j'ai titré le peuple d'en bas, moi, pour me démarquer de la traduction précédente, quand il écrit le peuple d'en bas, il dit à un moment, résumons notre pensée. Comment peut-on qualifier l'East End de Londres? Eh bien, il n'y a qu'un seul mot pour cela, la misère, en français dans le texte. Et puis, quand un jour on lui demande aussi quels sont les trois grands écrivains qui, d'après lui, sont à prendre en compte, il répond Dante, Shakespeare, Balzac. Donc vous voyez, c'est vrai, c'est une Californie qui se détache de l'Europe, mais qui se détache, j'allais dire, presque plus de l'Est, de la Nouvelle-Angleterre, du côté New England, vous savez, un peu chic, bon genre, voilà. Non, les Californiens, ils sont différents. Mais ils veulent un lien, à la limite, ils vont tout de suite le puiser chez Zola, Maupassant, Balzac.
Et en même temps, lorsque l'on découvre la carte que vous avez judicieusement placée au début de votre livre, sur laquelle sont indiqués les différents points du monde visités par London, une chose saute aux yeux, c'est un homme tourné vers le Pacifique. C'est un Californien de San Francisco, ce qui peut se comprendre, mais est-ce que c'est vraiment la seule raison?
Alors, la cartographie, pour moi, elle était là pour montrer, évidemment, restituer ce qu'on aime bien, c'est le côté Tintin qu'on imagine de Jack London, Tintin reporter, Tintin aventurier, Tintin découvrant le monde, et le parfum de ces livres à l'ancienne où on ouvre les pages de Garth, déjà sont là pour nous donner un climat et une couleur. Mais en même temps, c'était aussi, j'avais besoin de la tracer, cette carte. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les cartes, et bien plus détaillées. C'était l'envie de comprendre le sens de ces mouvements. Et en fait, ça répond à trois grandes lignes. C'est la cartographie de l'expansion de l'Amérique à l'époque.
Comme vous le disiez tout à l'heure.
Face à son propre territoire, c'est-à-dire les portes du Pacifique, que sont la baie de Californie ou Seattle, et puis la traversée de l'Amérique, qui fait avec l'armée de Coxey, le développement des villes de l'Est, qu'il va visiter en sortant de prison lorsqu'il sort du pénitencier d'Erie, et puis les espaces du Grand Nord, qui sont à l'époque, là c'est vraiment la cartographie historique de l'Amérique, puisque l'Alaska vient d'être acheté à la Russie en 1867. Quand il y va 30 ans plus tard, c'est même pas encore un État des États-Unis. Et je crois que c'est pas encore un État, l'Alaska, à l'époque. Et en tout cas, ça vient d'être acheté 30 ans auparavant et que la frontière est encore discutée avec le Canada. Donc c'est comme ça, l'expansion expansion américaine qui repousse ses frontières et puis après qui va se développer vers l'extérieur. Alors, les médiations en Corée, la présence médiatrice des États-Unis en Corée, Cuba, j'évoquais son voyage de noces, les bases du Pacifique, mais également l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Quand il se tourne, lui, quand il revient du SNARC, il s'arrête en Équateur et au Panama. Mais c'est quand même fascinant de penser que dans cette cartographie, les États-Unis viennent de racheter la concession du chantier de Panama et que au chantier qui est à Culebra, Jack London ne passe que 2 ou 3 jours, je crois, à Panama City. Il trouve le moyen d'aller visiter le chantier. Et il est même pressenti, d'ailleurs, pour venir chroniquer l'inauguration quelques temps plus tard. Donc voilà. Et puis, il y a ce rêve océanique dans cette cartographie. Alors évidemment, c'est le Pacifique, parce que c'est la porte d'or. Donc le Japon, la mer de Bering, tout ce qu'on a pu dire sur le Snark. Mais il y a aussi... Vers la fin de sa vie, je trouve une exploration intérieure où on marche sur ses racines californiennes et sur ses racines américaines. Et là, au contraire, c'est comme si on retournait aux sources. Quand le voyage qu'il fait dans une carriole à 4 chevaux avec Charmian et Nakata, où ils vont en Oregon et en Californie du Nord, où... je vais vous dire, avec son dernier bateau, le Roamer, où ils explorent tous les méandres des rivières San Joaquin et Sacramento, et va par à la rencontre, même là, définitivement, on est dans une nostalgie aussi, ou dans une quête des origines, avec les pilleurs d'huîtres.
Qui sont devenus des vieilles personnes.
Oui, voilà, des figures locales, mais qui étaient des parties intimes de son adolescence. Et le dernier point aussi, avec le Dirigo, quand ils embarquent à bord du Dirigo, sur lequel, à la base, ils veulent recueillir de la documentation pour les mutinés de l'Elsener, où ils vont partir de Baltimore, passer le Cap Horn, enlongeant toutes les côtes américaines sans toucher terre, pour finalement être débarqués à Seattle. Finalement, quand on regarde ça, c'est un moyen de boucler la boucle, en fait, où ils retournent sur son point de départ de la ruée vers l'or, et entre-temps... c'est comme s'il dressait la cartographie de son continent dans sa vastitude. Quoi, voilà.
Et puis,
Noël Mauberet.
Je me souviens d'une phrase de Stevenson qui disait, à peu près, de mémoire, il n'y a pas de plus belle matière pour l'imaginaire qu'une carte.
On a entendu Michel Lebris souligner le fait que l'on a toujours cherché à montrer London sous un jour acceptable. Qu'y a-t-il chez London, selon vous, de non réconcilié, de sombre, de violent ou de scandaleux ? Noël Mauberet.
Je pense que, Michel, tu parlais du voyage sur le Dirigo. Ce voyage sur le Dirigo, c'est vraiment un des moments noirs de la vie de Jack London. Il vient d'avoir une série de conférences dans l'Est des États-Unis, mais ça a dégénéré parce qu'il a quitté la Californie et on ne sait pas pour quelle raison. Chez London, tout allait très vite. Il a basculé. Il y a eu toute une série de beuveries, toute une série de soirées vraiment trop arrosées, presque violentes. J'ai lu, moi, le journal de Charmian et... Pour cette période, on voit que c'était vraiment dur, quoi. Quand elle écrit, il est rentré ivre une fois de plus, je me suis enfermé dans la salle de bain. Un jour, il rentre, il avait eu l'idée dans un bar complètement ivre de se faire entièrement raser la tête. D'ailleurs, quand on le voit devant le monument de Edgar Poe, il a la tête rasée, c'est à la suite d'une de ses soirées. Et à ce moment-là, parce que London, avait des moments de profonde dépression. Hein. Il appelait ça sa grande maladie ou sa maladie blanche, ça dépend, il lui donnait plusieurs noms. Mais il était par moments très très dépressif. Et par exemple, le roman « Les mutinés de l'Elsener » porte la trace de cet effondrement, j'allais dire, de London pendant quelques mois. Dans « Les mutinés de l'Elsener », tout est à... contre-pied de ce que London défendait. C'est-à-dire qu'on a un homme riche avec un domestique qui embarque sur un beau voilier, ils sont servis, c'est des grands bourgeois, et ils sont à l'avant du bateau, il y a un équipage fait de gens sans foi ni loi, un peu, certains sont déformés, on dirait presque qu'ils sont pas humains, et il va y avoir un affrontement. Et London semble prendre le point de vue des riches, des bourgeois, des puissants, contre ces individus presque dégénérés qui composent l'équipage. Et c'est absolument à l'opposé de ce qu'il pensait d'habitude. D'habitude, Jack London est toujours avec les faibles, les déshérités, les gens qui souffrent. Et là, et en même temps, c'est là qu'on a les propos les plus racistes de l'œuvre de London, dans Les Mutinés de l'Elseneur. Des propos, voilà. Ce roman, c'est une sorte de... Bon, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Ça fait partie
des contradictions
et des multiples facettes de London.
À la même Michel époque, Viot. Vous avez aussi une chose, c'est que, bon, il est marqué, vous le savez, par le voyage du Snark sur le plan médical. La maladie avait obligé à interrompre le voyage. Il récupère en Californie, mais en même temps, comme il avait été soigné avec des médicaments à base de mercure, ça avait empoisonné son sang, ce qui avait du coup amené une dégénérescence de ses reins. Et il découvre, à l'époque dont parle Noël, on est vers 1913, entre 1911 et 1913, sa santé se dégrade. Et il va tout d'un coup réaliser... lui qui voue un culte au corps, enfin ouais. C'est un passionné de sport, c'est quelqu'un qui était fier de son corps, de ouais. ses aptitudes.
On le voit sur les photos
et
d'ailleurs.
On le voit ouais. absolument.
Qui sur les pistes du Klondike portait des charges à peu près deux fois plus lourdes que celles des autres ouais. chercheurs d'or.
Et alors il y a une chose qui intervient à ce moment-là, si vous voulez, c'est que son côté dépressif va être démultiplié, parce que il sent que son corps le trahit, il sait même qu'il est à moyen terme condamné s'il ne change pas de régime alimentaire et de style de vie.
Il écrit à ce moment-là, je crois que c'est dans sa correspondance, il écrit à l'une de ses filles, c'est en 1913 ou 14, et il lui dit, donc il a 36 ans, et il lui dit, tu sais, ton papa est vieux maintenant.
Il est d'ailleurs très très touchant de découvrir à la fin de votre documentaire, Michel Viot, les dernières images filmées de Jack London dans son ranch, quelques jours avant sa disparition, donc en novembre 1916. On y voit un homme au corps abîmé, épuisé, mais ce qui frappe c'est le rire et le sourire qu'il affiche qui sont particulièrement émouvants, bouleversants même.
Je suis complètement d'accord avec l'analyse, c'est-à-dire que pour moi ce qui se dégage, au-delà de la rareté du document, et de la symbolique du fait que ce soit filmé 6 jours avant sa mort, mais c'est l'émotion qui se dégage de l'image elle-même. Parce que effectivement, il est grossi, il a beaucoup grossi, ses yeux semblent un peu perdus. Et il y a une citation de Charmian d'ailleurs qui commente ça et qui explique que son regard s'est transformé dans ces derniers moments. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans cette archive, parce que c'est très court, il y a que quelques plans, mais par contre les plans ont une véritable durée et s'installent. Et il a à cœur de présenter son univers intime, l'univers de Glen Helen. Donc on voit toutes les choses qui lui tiennent à cœur et qui font partie de son quotidien. Charmian à cheval, leur petit chien Possum, qui était leur dernier chien. Jack était fou d'animaux, hein. Jack et son cheval, où il caresse son cheval avec énormément de tendresse. Les cochons de Pig Palace, ce qui est même carrément comique. Et en fait, il y a le plan où il semble nous dire au revoir. Lorsqu'il salue avec son chapeau. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'en plus, dans tous les plans, Jack fixe un regard caméra. C'est-à-dire qu'il parle à l'objectif. Et c'est pas lui filmé de profil, quoi. Il y a quelque chose d'absolument direct et où on perçoit quelque chose de presque désespéré. Parce que il y a à la fois de la douceur, une gaucherie même, quand on le voit dans la scène avec les petits cochons, une gaucherie presque enfantine. Et là, on mesure ce qu'était, je pense, devenu Jack London. On sait que la mort est proche, et on sait aussi, par les témoignages les écrits de Charmian London, à quel point, et on le sent aussi dans les correspondances, à quel point elle était devenue une figure protectrice. Que son rôle de femme s'était presque mué en autre chose dans les derniers jours. Et voilà, il y a à la fois toute cette tendresse, tout ce désespoir et cette désarmante simplicité qui se dégage de cette archive.
Merci beaucoup Michel Viotte et Noël Mauberet. Nous retrouverons dans un peu plus de 2 heures, juste avant la fin de cette nuit spéciale Jack London. Et d'ici là, nous aurons écouté Une vie, une œuvre, Jack London par Geneviève Ladouès en 1989. Tuer un homme de London, une nouvelle policière proposée par Francis Lacassin en 1985. Et pour finir, quelques pages de John Barleycorn dans un numéro d'Atout-Poche de 2000. La nuit spéciale Jack London se poursuit sur France Culture. En votre compagnie, Noël Mauberet et Michel Viotte. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.